RTBFM, l'interview du jour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans nos studios Jean Simon, président de l'Institut du patrimoine Comtadin. Bonjour.
Bonjour.
Et également Jean-Claude Capdeville. Alors, vous êtes membre actif de l'Institut du patrimoine Comtadin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux venus nous parler d'une conférence qui aura lieu le 30 juin. Mais peut-être que pour commencer, on peut préciser qu'est-ce qu'est l'Institut du patrimoine Comtadin.
L'Institut, nous sommes fiers de nous parce que nous fêtons les 21 ans de la fondation de cet institut. Nous devions fêter ces 20 ans, mais vous savez qu'en ce moment, on a plutôt eu affaire au vaccin qu'à des manifestations qui puissent être utiles à notre institut. Voilà, si je peux dire deux mots sur cet institut, c'est que dans notre compta, nous sommes là pour rencontrer les gens, offrir nos services, car nous avons beaucoup d'archives, nous avons beaucoup de publications, nous avons des étudiants qui viennent faire appel à nos services, et puis aussi des gens qui écrivent. Alors les carnets du Ventoux, le paysage Comtadin, etc., etc., c'est un défilé régulier et qui fait que cela enrichit la mémoire de notre compta au service de ses habitants et aussi des étrangers et des visiteurs.
Et alors justement, si on parle un petit peu plus de la conférence qui aura bientôt lieu, sur quoi est-ce qu'elle va porter ?
Alors cette conférence, c'est une découverte qui s'est faite il y a à peu près une dizaine d'années. Personne n'était au courant de ce qui s'était déroulé pratiquement au moment où c'était la fin de la dernière guerre mondiale. Nous étions donc à Sorgues, un 18 août 1944. La fin de la guerre était là, était toute proche. Et puis deux personnes, deux jeunes, c'était les grandes vacances. Ils avaient en gros 11-14 ans, voilà. Et la journée était magnifique. Il faisait très chaud parce que nous étions au mois d'août. Ils habitaient sur la route nationale 7. Et tout d'un coup, ils voient arriver une horde de gens. C'était à peu près 700, en haillons. Et ces gens-là étaient bousculés, maltraités, frappés par la Waffen-SS. Inévitablement, les mamans ont fait rentrer ces jeunes. Et depuis, c'est resté ancré dans leur mémoire. Et un beau jour, eh bien, ils se sont dit, il faut raconter ça. Ce témoignage, parce que Sorgues, il y a eu pas mal de choses, nous allons le voir, qui se sont déroulées avec ces pauvres prisonniers. Il a fallu attendre beaucoup pour parler de ce train, et surtout des gens qui étaient à l'intérieur. Au moment où ces gens-là ont traversé à pied, ils venaient de Roquemort jusqu'à Sorgues, traverser les vignobles de Châteauneuf-du-Pape à midi, c'était quelque chose d'horrible, surtout l'état de ces gens. Donc là, il y a eu également un soutien de la population sorgaise qui, malgré les hurlements des SS, ont apporté des fruits à boire, ont essayé d'aider des gens. Ces jeunes gens qui ont vu ça, c'était Robert et Charles. Donc ils étaient avec leur maman derrière les volets, ils ont été frappés par ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils venaient faire à Sorgues, d'où ils venaient, où ils allaient, personne n'était au courant. Finalement, petit à petit, ils ont décidé, quand ils ont été beaucoup plus grands, de porter ce témoignage. Ce témoignage, ils ont appelé ça le train fantôme. Et on va voir pourquoi. Alors, il faut noter qu'il y a eu un courage extraordinaire de la population sorgaise, parce qu'ils risquaient beaucoup, même si la libération était là. Ensuite, il y a eu la création d'une association à Sorgues, le train fantôme. Un monument a été érigé devant la gare. Il a été érigé par M. Marc Ferrand, qui est un artiste. Et il célèbre surtout l'évasion de certains, parce que à Sorgues, d'une part la population, mais les cheminots de Sorgues ont réussi à en faire évader en gros une trentaine. Notamment un cheminot, allez, je peux le dire, parce que la famille sera contente, c'est M. Vézol, il est décédé. Il a fait passer une vingtaine de prisonniers sous un petit pont qui passe sous la voie ferrée. Il y a un petit canal qui passe là, et munis d'une lanterne et d'une casquette, ils allaient de l'autre côté de la gare où ils étaient libres, et ainsi de suite, il y avait un cheminot qui ramenait la casquette et la lanterne, et ils en faisaient évacuer d'autres. Voilà, il y a eu cette aventure. Cette aventure, bon, on était donc là à Sorgues, mais qu'est-ce que c'était ces gens ? Alors ces gens, ils venaient du camp du Vernet. Ça a duré deux mois pour eux, le voyage. Ils venaient du camp du Vernet, c'est dans l'Ariège, ça. Et ils devaient aller tous à Dachau, en passant par Toulouse, Bordeaux, et remonter ensuite vers l'est de la France. Quand ils sont arrivés à Bordeaux, ils ont essayé d'aller au-delà. Les voies ferrées étaient bombardées, puisque c'était la libération. Le train est donc retourné. Et ce train, il est retourné, ben, tout simplement, il a fait Bordeaux, Agen, Toulouse, et il est arrivé sur Nîmes. Tout le long, ces gens-là ont distribué comme ils ont pu écrire, et s'ils avaient du papier, des petits papiers destinés aux cheminots pour avertir leur famille et pour leur dire, voilà, nous sommes dans ce train, peut-être nous allons vivre. C'était quelque chose d'abominable. Le train est arrivé donc à Nîmes. En arrivant à Nîmes, impossible de rejoindre Avignon, le pont sur le Rhône avait sauté. Tant pis, on a dit, on va le faire passer par la rive droite, c'est-à-dire par Roquemort, Bagnols-sur-Cèze et tout ça. Entre-temps, la Croix-Rouge a fait ce qu'elle a pu et le train a été arrêté en gare de Roquemort parce que là encore, la voie avait sauté. Il y avait une volonté de la part de l'occupant d'amener ces gens à Dachau. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu retrouver une locomotive et un train depuis Avignon. Là, la résistance cheminote du dépôt d'Avignon a fait le maximum pour retarder le train. Et ils avaient saboté la locomotive. Ils ont fait monter ces gens-là, il y en avait encore presque 700, et le train est reparti. Au départ de Sorgues, tant bien que mal, parce que la locomotive avait été sabotée, mais devant la férocité de la Waffen-SS, qui avait attrapé le chef de gare et voulait le fusiller, les cheminots ont dit, on va partir, on ne se rend pas de plus loin, mais ça ne fait rien. On va éviter qu'il y ait des morts. Voilà, en gros, cette histoire. Alors, cette histoire, c'est peut-être un paradoxe, mais elle a été découverte par un Allemand. Un Allemand qui est toujours tout honteux de ce qu'ont pu faire ces gens-là. Et la dernière fois, il m'avait dit, vous savez, et effectivement, c'est vrai, les Allemands ont été les premiers à étreindre les camps de concentration. Alors, ce monsieur, on va un petit peu en parler, parce que c'est lui qui va donner la conférence. Il se nomme Gerhard Bockel. Alors, il est né dans le nord de l'Allemagne, dans la province de Hesse. Alors, il a fait de grandes études, et puis il a eu, bien sûr, son bac. Et il a exercé une activité de journaliste. En 1975, il crée un cabinet d'avocats. Puis il était passionné par la politique aussi. En 78, il était très actif et il a été élu. Puis il a été élu député de 1985 à 1994. Et enfin, il a été nommé ministre de l'Intérieur dans le Land de Hesse jusqu'en 1999. Alors, Gerhard Bockel a quand même exercé sa profession, c'est-à-dire avocat. Il vit en partie à Francfort-sur-le-Main et il vit en vacances dans un petit village du Gard. Et en 2013-2014, il fait un séjour à Avignon pour les besoins de sa profession. Et c'est là qu'il découvre cet horrible chapitre du fameux train. Et il a fait connaissance de ces gens qui étaient tout jeunes à l'époque. Et ça a commencé à faire tilt. Il a fait des recherches. Et c'est là qu'il a découvert toute cette aventure du train fantôme. Et cette odyssée qui va nous faire découvrir ce train fantôme, eh bien, c'était quoi? C'était ces gens, alors en gros, voilà, 730 détenus, 536 ont été quand même livrés à Dachau, et nous étions à la libération. Certains, malheureusement, sont morts en cours de route, parce qu'ils étaient dans les wagons à bestiaux, hein. C'était pas de la première classe, ni du wagon-lit. Hein. Et quelques-uns ont réussi à s'évader. Alors, ils se sont évadés comment? En cassant les planches des wagons, et puis tombés entre les rails. Alors certains sont morts parce que ils sont mal tombés et ils ont été écrasés par le train. D'autres ont réussi à s'en tirer avec des contusions. Alors, c'était quoi? Des femmes, des enfants, des hommes, des juifs surtout, bien sûr, des tziganes. Il y avait des républicains espagnols. Il y avait également beaucoup d'Italiens qui avaient fui le régime fasciste de l'Italie. Il y avait bien sûr des résistants. Il y avait des prêtres. Il y avait quelques gendarmes qui naturellement étaient dans la résistance et ont été dénoncés par certains autres gendarmes. Voilà. Et tout ça était entassé dans des wagons à bestiaux, où il y avait écrit « Hommes 40, chevaux en long 8 ». Ils n'étaient pas 40, ils étaient à peu près 70, 80, quand ce n'était pas 90 ou 100. C'était affreux. Des gens sont morts étouffés d'ailleurs là-dedans. Bon, alors ce transport a débuté au mois de juin, au fort du Vernet, et il s'est terminé en août 1944, là, aux portes d'enfer, c'est-à-dire à Dachau. Alors, je ne peux pas en dire plus, parce que moi, j'invite toutes les personnes, et je voudrais qu'ils soient nombreux à venir écouter ce que va nous dire Gerhard Bockel. Voilà. Alors, nous, ce qu'on a dit, ben voilà, je crois qu'il faut parler de ces portes de l'enfer, de ces portes de la mort. Et c'est ce qu'il va faire le 30 juin.
Et alors justement, où est-ce qu'elle aura lieu cette conférence et à quelle heure le 30 juin ?
Alors le 30 juin, à la MJC, avec qui nous fonctionnons depuis des années, et qui nous prête ses locaux, sa sono, etc., et le personnel. Et à la MJC, donc le 30 juin, à 15h, voilà. C'est ouvert à tous, hein. Nous n'avons pas de demande de quoi que ce soit, c'est nos sympathisants et nos cotisants qui offrent ces conférences et ces actions à tous ceux qui veulent bien nous rencontrer.
Et est-ce qu'il faut s'inscrire ou pas forcément ?
Pas du tout.
Et est-ce que vous avez, par hasard, d'autres événements à venir dont vous voudriez nous parler ?
Oui, alors là, comme c'est lui qui a fait la découverte, qui a fait le suivi, je vais passer la parole à Jean-Claude pour notre visite de fin septembre.
Oui, alors, il y a une visite qui va se faire à Lille-sur-Sorgue, suite à une conférence que j'avais donnée sur la soie. Et à Lille-sur-Sorgue, il y a une très, très ancienne entreprise. On voit encore à certains endroits sur une façade qui s'appelait le tapis d'Avignon. Ça remonte à 1888. À ce moment-là, Lille-sur-Sorgue était privilégiée, mais tout simplement parce qu'il y avait les sorgues. Et avec les sorgues, on peut animer des machines, c'est-à-dire avec les roues à aubes. Et il y en a une, le tapis d'Avignon, qui, outre la filature, mais faisait des tapis, des couvertures, et elle existe toujours. C'est une entreprise qui est plus que centenaire. C'est la famille Brun de Vientiran, et ça s'appelle maintenant la Filaventure. On peut visiter la filature, on peut visiter la fabrication de tous les produits qu'ils vendent. C'est du très haut de gamme et même du produit de luxe. Et il y a un magasin, bien sûr, mais il y a les ateliers, et nous allons faire ça courant septembre. Voilà, nous allons donc visiter. C'est la toute dernière filature qui existe d'abord à Lille-sur-Sorgue, mais aussi sur le coin là, hein.
Et donc pour la visite de la filature, où est-ce qu'il faut se rendre ? Comment on peut faire pour s'inscrire si on est intéressé ?
Il faudrait que je communique une adresse mail. C'est plus pratique pour tout le monde, pour nous et pour les gens. À savoir jean.simon26@wanadoo.fr.
Voilà, donc on peut se renseigner auprès de vous directement.
Sinon, par courrier, pour ceux qui n'auraient pas d'ordinateur, vous adressez ça à la MJC, à Carpentras, bien sûr, rue Mercière. Bien sûr, en précisant Institut du patrimoine comtadin. Et voilà. Je voudrais dire aussi, ce que j'ai négligé dans l'introduction, c'est que nous recevons les documents et à la limite, nous les achetons. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont héritiers et qui, plutôt que d'aller au dépotoir, préfèrent s'adresser à nous. Et à ce moment-là, on collationne tout ce qui peut être préservé. Et il y a encore des trésors à Carpentras, il faut le savoir.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. Donc, je rappelle que nous étions avec Jean Simon, président de l'Institut du patrimoine comtadin, et Jean-Claude Capdeville, membre actif de l'Institut du patrimoine comtadin. Et donc, vous étiez venu nous présenter la conférence sur le train fantôme qui aura lieu à la MJC de Sorgue le 30 juin à 15h. Merci beaucoup.
Merci.